France Inter, le 18-20.
Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter ma journée. Le matin, je me lève sur les coups de 6h et je cours au moins 30 minutes. J'aime bien méditer un peu aussi en même temps que je fais mes étirements après la course. Sinon, évidemment, j'ai un gel douche sans parabène. À midi, je compte mes calories grâce à une appli hyper bien faite, mais ça m'aide à manger sain. Le soir, deux fois par semaine, je fais un peu de yoga. La piscine, j'aime bien, mais il y a quand même le problème du chlore. Toute cette hygiène de vie est indispensable. Elle m'aide à rester optimiste et à sourire à la vie, à rester compétitive aussi dans mon travail. Le bien-être, c'est hyper important. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous avez probablement déjà appelé SOS Médecin. Évidemment, je caricature les madames parfaites des magazines qui en plus ont des enfants qui mangent bio et un anti-ride au quinoa. Mais pour redevenir sérieux, le bien-être est devenu, dans nos sociétés, une obsession, parfois une tyrannie. Évidemment qu'il faut manger bien, faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire avec excès, se coucher tôt. On met d'ailleurs tout ça dans nos résolutions de début d'année. Mais évidemment qu'il faut aussi prendre du plaisir et parfois ça, c'est pas dans le mode d'emploi. Le bien-être devient une sorte d'impératif moral. Si on coche toutes les cases du bien-être qu'on nous sert dans les pubs et ailleurs, alors forcément, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Sinon, on nous fait culpabiliser, le bien-être oublie le bonheur. À la place, on nous cerne d'injonctions et les plus fragiles d'entre nous finissent parfois avec des troubles du comportement alimentaire, généralement, ou alors vers la dépression ou plus. Alors ce soir, oublions-nous un peu, mangeons gras, tiens, jetons donc nos papiers par terre et racontez-nous ce que vous en pensez.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Allez Joël, c'est vous la première. Soyez la bienvenue sur France Inter.
Oui, merci. Bonsoir Fabienne Saint-Pès. Bonsoir France Inter. Je vous remercie pour toutes ces émissions de grande qualité. Voilà, moi je voulais vous faire part de ce qui m'interpelle depuis quelques années. À chaque fois, je me rends dans une grande enseigne pour regarder les bouquins. Je m'aperçois que le rayon bien-être, développement personnel prend le pas. Et ça m'interpelle parce que je me dis que c'est quand même assez symptomatique du malaise qu'il y a dans la société à l'heure actuelle. Alors qu'en fait, il se prépare des choses extrêmement difficiles, on devrait au contraire regarder autour de nous, essayer de trouver des solutions ensemble. Et au contraire, ce soi-disant développement personnel, bien-être à tout prix, ça nous amène à être complètement auto-centré sur soi-même. Et je pense que c'est ça qui va faire notre perte, en fait. C'est tout l'inverse. On fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait regarder le monde tel qu'il est, essayer de trouver des solutions, regarder ceux qui vont plus mal que nous, et se retrousser les manches, voilà, ce qui n'empêche pas effectivement, moi je cache pas que je suis très engagée du point de vue écologique, mais par contre je pense qu'il faut pas rester centré sur son nombril. Il faut au contraire regarder autour de soi.
Merci beaucoup Joël, merci pour cette entrée en matière et ce premier témoignage dans le téléphone sonne ce soir pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Benoît Elbrun est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de marketing à l'école de commerce ESCP à Paris. Vous avez écrit L'obsession du bien-être, c'est publié chez Lafon et ce sera apparaître le 14 février, ça doit être demain.
C'est demain.
Demain, donc voilà.
Saint-Valentin.
Exactement, bonsoir Irène Margaritis.
Bonsoir.
Vous êtes chef de l'évaluation de la nutrition et des risques nutritionnels à l'ANSES et puis on aura au téléphone Nicolas Sahuc dans un instant, qui est diététicien et qui sera avec nous dans le téléphone sonne. Moi, je trouve ça intéressant, Benoît Elbrun, commençons avec vous, ce qu'elle dit, Joël. Alors, on ne va pas passer une émission à dire qu'il ne faut pas faire du bien à son corps, évidemment, c'est évidemment pas le but, mais elle nous parle de ce côté auto-centré. Est-ce que c'est ça qu'on est devenu, en fait? Est-ce que c'est pour ça qu'on s'acharne sur des vélos, des tapis et à manger super, super bio?
Ah, moi, je trouve que le diagnostic qu'elle pose est tout à fait juste et tout à fait clair. C'est vrai qu'on s'aperçoit dans les librairies qu'il y a de moins en moins de livres sur le bonheur, de plus en plus sur le bien-être. Et moi, je pense que les deux sont opposés. C'est-à-dire qu'on se pose la question du bien-être quand on a abandonné l'idée d'être heureux. Et effectivement, vous le dites très justement, le bien-être, c'est quelque chose de solipsiste. On est centré sur soi-même, c'est égoïste, c'est sensoriel, alors que le bonheur est un projet politique, c'est un projet collectif. Donc, le bien-être, en fait, c'est une forme de refus de l'exploration du monde. Parce qu'en fait, on est centré sur ses sensations. Et donc, ça pose énormément de problèmes. Notamment, je pense que ça pose un problème de rapport à l'autre. Parce que finalement, c'est une façon de se couper de l'autre.
Irène Margaritis, on aura des témoignages dans ce sens-là. On en parlera aussi tout à l'heure avec Nicolas Sahuc. Mais Ça passe beaucoup par la nourriture, en fait, cette histoire-là, cette histoire de bien-être, les 5 fruits et légumes qu'on nous assène très quotidiennement, etc. On a l'impression que, comme on est aussi peut-être une société qui mange et qui aime ça, on fait passer notre bien-être beaucoup par là, en fait, non ?
Alors, ça passe par la nourriture, ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par l'activité physique, la sédentarité, la non-sédentarité. Donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'en termes de santé publique, il y a pas mal de problèmes. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on essaye d'identifier quels sont ces problèmes-là et on essaye de trouver quel est le comportement alimentaire et le comportement en matière d'activité physique qui serait bénéfique à la santé, sans en faire une obsession, bien évidemment. Après, la question, c'est la façon dont chacun s'empare de ces recommandations et de ces repères qui peuvent être des repères à utiliser pour soi et toujours dans le plaisir aussi et dans l'harmonie.
Il y a l'idée de la culpabilité, en fait, quand ça marche pas, surtout, et c'est bien ça le problème, parce que si on fait ça de manière très décontractée, tout va bien, mais du coup, les injonctions qu'on nous donne font que si on n'y arrive pas, si on finit par manger un truc pas sain ou qu'on fait pas de sport, alors c'est de notre faute, quoi, et c'est ça qui est terrible, non, Benoît Albrin?
Mais le principe même de ce qu'on appelle l'économie du bonheur, en fait, c'est de responsabiliser les individus par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils ressentent. Et c'est une façon de leur dire, finalement, si tu n'es pas heureux, c'est de ta faute. Et donc, tu dois faire le chemin spirituel, nutritionnel, pour être heureux. Donc, il y a une énorme responsabilisation de l'individu. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est que ce qui crée de la valeur économique sur un marché, c'est la souffrance. Mmh. C'est pas le bonheur. Et donc, pour proposer aux gens d'être heureux, ce qui est l'objet du marketing, parce que le marketing, c'est avant tout une technologie qui sert à fabriquer du bonheur, il faut d'abord leur montrer qu'ils sont malheureux. Donc, il y a une espèce de spirale infinie qui fait qu'on va dramatiser les petits bobos, les petites souffrances, on va culpabiliser les personnes pour leur proposer quelque chose, soit d'aspirationnel qui s'appelle le bonheur, soit de sensoriel qui s'appelle le bien-être.
Et cette question où cette remarque qui va dans le sens de ce que vous dites, qui vient de Denis sur franceinter.fr, qui dit « La recherche excessive du bien-être correspond sûrement ou proportionnellement, il le pose en point d'interrogation, au mal-être. Est-ce qu'il y a une proportion? Plus on est mal, plus on cherche à aller bien de cette manière-là, dans ces directions-là, avec des choses finalement assez artificielles. »
Ce qu'on voit assez bien, c'est l'image du corps, par exemple, sur la question de l'image du corps, mm-hmm. et de la recherche de l'amaigrissement qu'on voit surtout chez les femmes, qu'on commence à voir pas mal chez les hommes, et qui conduit là à des comportements alimentaires qui sont des comportements alimentaires qui peuvent aller jusqu'à l'anorexie et qui conduisent à, dans un premier temps, on pense qu'on va aller mieux parce qu'on va se stresser soi-même, on va stresser son organisme, on va opérer sans le savoir des bouleversements physiologiques, métaboliques, parfois irréversibles, tout ça dans une quête d'image dont on pense qu'elle va nous permettre d'être heureux, à tort.
Eh bien justement, je voudrais qu'on écoute Lucille. Bonsoir Lucille.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Lucille.
Merci, merci de prendre mon appel. En vous écoutant, j'ai mille choses à dire, donc il va falloir que je me concentre.
Allez-y.
Donc en fait, moi je voulais apporter mon témoignage parce que jusqu'à août dernier, j'ai passé en fait presque 2 ans en clinique psychiatrique pour des troubles alimentaires. J'étais anorexique boulimique exactement. Et du coup, j'ai vécu et j'ai rencontré un tas de personnes, autant de filles que de garçons, enfin autant, aussi des filles et des garçons, qui en fait, d'abord dans cette recherche de perfection et de bien-être parfait, de respecter toutes ces règles qu'on nous donne, les 5 fruits et légumes, le yoga, le sport, etc., en fait, sont tombés dans l'obsession complète et surtout ont perdu tout le contrôle et tout le bien-être que c'est censé apporter.
Mmh.
Et avec ça, en plus, il y a quelque chose que j'ai découvert moi quand j'étais à la clinique, qui est l'orthorexie, et qui est cette forme de trouble alimentaire qui est en fait justement la recherche de manger sain, mais jusqu'à plus ne manger sain du tout au final, parce qu'on se prive de beaucoup de choses.
Jusqu'une obsession terrible en fait. Moi aussi j'ai découvert l'orthorexie en fait, où les aliments sont parfois perçus comme malsains, où on compte chaque grain de riz, où on ne mange de fruits que quand ils sont hyper frais. Lucille, je voulais pas vous interrompre, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter?
Non, c'est bon.
Eh ben, merci beaucoup. Je voudrais rajouter une question qui va dans le sens de ce que vous dites, en fait. Je souffre d'anorexie depuis maintenant 3 ans. C'est ce que nous dit cette Pauline sur franceinter.fr et qui nous dit « Chaque injonction à manger de manière saine constitue un vrai frein à ma guérison. » Nicolas Sahuc, qui est avec nous également, vous êtes diététicien. J'imagine que c'est des choses que vous entendez, ça, et contre lesquelles vous essayez de lutter avec vos patientes.
Ben, d'autant plus que je sais ma spécialité de m'occuper des troubles alimentaires, donc c'est ce que j'entends quotidiennement. Encore aujourd'hui, j'étais au CHU de Montpellier, j'ai vu 10 patients avec un trouble alimentaire qui me disent tous la même chose, cette difficulté à recevoir les informations en permanence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et sur Twitter, toutes ces injonctions qui nous poussent à vouloir manger sain de plus en plus. Alors, il faut nuancer plusieurs choses. L'orthorexie, il faut bien comprendre que c'est une pathologie dans les troubles alimentaires, mais un peu plus complexe qu'on l'imagine. On suppose que c'est plus un trouble obsessionnel compulsif que vraiment un trouble alimentaire. Donc là, il faudrait être un peu nuancé. Et ensuite, ce que je mesure, en fait, avec mes collègues psychiatres, nous, c'est la souffrance que va occasionner un comportement alimentaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez du mal à accepter une invitation chez les amis, lorsque vous êtes passé votre temps sur votre application à compter des calories, lorsque vous perdez, en quelque part, une forme de liberté et de spontanéité dans votre comportement alimentaire, on peut parler de souffrance et on peut commencer à parler de trouble du comportement alimentaire. Ensuite, je crois que tous, on cherche la bonne santé, comme on le disait tout à l'heure, être bien dans son corps, il y a des nuances dans tout ça. Tant que ça ne vire pas dans une souffrance, on peut rester modéré vis-à-vis de ça.
Qu'est-ce que vous leur dites, vous? Alors, j'imagine que c'est très compliqué, hein, Nicolas Sahuc, c'est pas comme s'il suffisait de dire « mais non, tout va bien, tu vas très bien ». Mais est-ce que l'injonction publicité, l'injonction magazine, toutes ces choses-là, est-ce que c'est des choses qui reviennent assez vite et tout de suite dans le discours de vos patients et vos patientes?
C'est en permanence, c'est en permanence, et la première des choses que je leur demande, c'est de couper court avec tous les comptes de fitness, tous les comptes de coach, tous les comptes de régime qu'on voit sur Internet, ces sociétés qui nous vendent des régimes en permanence. De suite, je leur demande de couper ce contact pour couper les algorithmes et pour qu'elles soient moins perturbées par toutes ces choses-là.
Merci beaucoup, vous restez avec nous, Nicolas Sahuc. Magali, bonsoir Magali.
Oui, bonsoir Fabienne.
Soyez la bienvenue Magali, on vous écoute.
Je me suis sentie vraiment interpellée par la thématique de ce soir, parce que tyrannie et bien-être côte à côte, ça me paraissait un petit peu violent quand même. Il est vrai que, comme vous l'avez signifié, il y a en effet dans les magazines, sur certains sites internet, des espèces d'injonctions qui peuvent en tout cas paraître comme des injonctions, mais ça reste un choix personnel que de prendre sa santé en main, que de décider à un moment donné, il y a quelque chose dans ma vie qui va pas bien, ma santé ne va pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? En tout cas, moi, ça a été mon chemin. J'ai décidé de changer de vie grâce au yoga. En démarrant des cours de yoga, j'ai vraiment modifié la perception que j'avais de mon corps et du temps aussi. J'ai arrêté d'être un hamster dans sa roue. Ça m'a fait grand bien. Et ça m'a permis surtout de pouvoir à un moment donné cesser des conduites addictives que j'avais, notamment de boire de l'alcool. Et ensuite, ça a été tout un tas de bénéfices. J'ai modifié mon alimentation, je suis devenue d'abord végane, j'étais un petit peu trop, en tout cas moi je trouvais que j'étais devenue un petit peu trop excessive, donc je suis revenue à un végétarisme plutôt flexible.
Et pardon Magali de vous interrompre, mais moi je vous écoute, là je trouve ça intéressant, parce que vous avez l'air d'aller bien et c'est tant mieux évidemment, mais on a l'impression que quand vous avez décidé de changer, vous avez fait ça tout d'un coup, et alors pas qu'un peu quoi, le yoga, le véganisme, l'arrêt de l'alcool, il y a quelque chose de très, de presque stakhanoviste en fait dans votre manière d'aborder ça, ou je me trompe?
Ben écoutez, ça a été une prise de conscience, et à un moment donné, dans la conduite addictive, j'étais arrivée à un point où je sentais bien que je me détruisais, et en ayant perdu beaucoup de choses dans ma vie, je me suis retrouvée acculée, je dirais, à me dire si je veux vivre, c'est important que je change des choses. Et donc, ça a été, en tout cas pour moi, le yoga, qui est donc très en vogue, on voit partout, et il y a des profs de yoga qui se forment en 2 semaines, et ça, c'est pas forcément, je dirais, je suis des cours de yoga vraiment indien traditionnel, et j'en suis très heureuse, et ça me fait beaucoup de bien. Mais en tout cas, moi, ça a été une porte d'entrée, de revenir dans la prise en conscience de son corps et dans l'instant présent. Et tout ça, ça m'a permis de ralentir Et en effet, de mettre en place des changements qui se sont assouplis après. Mais aujourd'hui, oui, je vais mieux. Merci.
Eh ben, formidable. Et on est content pour vous, Magali. Merci beaucoup. Je vous voyais réagir, Benoît Elbrun, notamment à un moment quand Magali nous dit « tout ça reste un choix ». Pour elle, vraisemblablement, oui. Parfois, c'est juste compliqué, en fait, que ce soit réellement un choix que l'on fait.
Je crois que le problème, c'est que le bien-être, en fait, en soi, n'est pas répréhensible. C'est pas le bien-être qui est tyrannique. Ce qui devient tyrannique, c'est quand le bien-être devient une injonction permanente et culpabilisante. Et c'est, en fait, c'est ça le problème. Et il faut savoir que cette idéologie du bien-être, en fait, elle vient de l'apparition au 18e de la notion de confort. C'est-à-dire qu'on va se poser les questions de qu'est-ce que c'est qu'une vie confortable, qu'est-ce que c'est qu'un canapé moelleux, qu'est-ce que c'est qu'une vie agréable chez soi. Donc, vivre dans le bien-être, en fait, c'est réduire sa vie à des éléments qui sont confortables. Donc, ça ne permet pas de créer une philosophie de vie ou une vision de la société. Bon, après, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que on a l'illusion d'un choix quand on a des pratiques de consommation, mais qui sont très largement programmées par des discours de marque. Donc la société de consommation, en fait, nous enjoint en permanence à faire ceci ou faire cela ou ne pas faire ceci, ne pas faire cela, et nous donne l'illusion du choix. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique.
On a cet internaute. Pardon, allez-y, Irène Margaritis.
Oui, je rebondirai là-dessus en disant que c'est la raison pour laquelle on se retrouve à présent à devoir faire des recommandations qui sont perçues par certaines personnes comme des injonctions, mais qui sont simplement des recommandations et des repères de comportement d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue de l'activité physique ou de la sédentarité, qui n'étaient pas nécessaires il y a quelques décennies. C'est-à-dire que naturellement, dès lors qu'il n'y avait pas justement d'injonctions publicitaires, et l'environnement n'était pas aussi agressif, il n'était pas nécessaire de rééquilibrer. Donc ces repères qui sont élaborés restent quand même utiles et ne sont pas forcément en tant que tels des injonctions.
Mais rééquilibrer comment, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut que vous disiez qui pourrait nous sembler très naturel mais qu'on est obligé de dire aujourd'hui?
La question des 5 fruits et légumes qui est devenue un slogan un peu caricatural finalement.
Oui, c'est un peu la tarte à la crème.
Ouais, c'est un peu... Mais à un moment donné, il a été nécessaire de dire, bon, attendez, pour arriver va être en bonne santé, globalement, il faut manger combien de portions de légumes. Et ça nécessite un travail, c'est le travail qu'on fait à l'ANSES, ça nécessite un travail d'analyse scientifique et bibliographique pour arriver à montrer et à prouver finalement des évidences qui sont le comportement alimentaire et le type d'alimentation qui va simplement nous permettre d'aller bien. Et c'est perçu, finalement, c'est perçu comme une injonction parce qu'il y a d'autres injonctions par ailleurs. Donc ça devient un environnement, ça se mêle à un environnement qui peut paraître et être perçu comme étant agressif.
Nicolas Sahuc, j'imagine que ça aussi c'est votre travail de revenir au basique, en fait, expliquer comment tout ça n'est pas censé être quelque chose d'obligatoire et quasi dictatorial. Un peu de légèreté et de souplesse, en fait.
Au contraire, je vais prendre un contre-pied. Je vais dire que là, les professionnels de santé sont grandement responsables de ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont confondu, lorsqu'ils donnaient une recommandation à un individu, avec une attitude qui était moralisatrice. Et en fait, les patients, pourquoi ils vous expliquent qu'ils vivent de la culpabilité lorsqu'ils ne font pas ce qui est recommandé? C'est parce qu'on a eu toute une frange de professionnels de santé qui ont été moralisateurs, qui ont dit « c'est pas bien, il faudrait faire ça ». Et c'est l'attitude moralisatrice des professionnels de santé qui aujourd'hui se traduit dans le monde du bien-être avec votre coach, votre copain sur internet qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous moralise, qui donne ce sentiment en permanence de culpabilisation. Et c'est là où nous aussi on a à changer, Irène Margaritis l'a très bien, il y a une notion de recommandation et bien sûr qu'elles sont de bon sens. Par contre, il faut que nous aussi on éteigne nos comportements moralisateurs en vue des autres.
Benoît Elbrun, pour réagir.
Oui. Après, je crois qu'il y a une autre chose.
Vous avez levé le doigt, vous êtes très très sage. Ouais, très sage. J'aime beaucoup.
Il y a une autre chose intéressante dans le discours de Magali, c'est le lien entre l'alimentation et le yoga. Parce qu'effectivement, ce sont les deux leviers sur lesquels on s'appuie généralement pour parler du bien-être. Et en fait, on s'aperçoit que l'aliment est perçu comme un ennemi et que finalement, par un principe réactif, on va avoir tendance à spiritualiser son existence grâce à des pratiques de yoga. Et il est vrai que l'idéologie du bien-être, en fait, elle s'appuie très clairement sur le fait que l'Occident est allé chercher, à partir des années 70, des sagesses en Orient, les a réimportées en se les appropriant. Et on voit bien, effectivement, que y a un rapport à la matière, notamment à la matière ingérée, qui est complètement différent, et avec cette espèce de d'équilibre entre la dimension spirituelle de l'être humain et puis sa dimension charnelle.
Puis il y a l'idée qu'ils ont tout compris eux, nous on n'a rien compris, oui, ce qui est d'ailleurs assez faux.
Oui.
On parle de l'Inde notamment,
bien
tous
sûr.
Ces endroits où on est censé revenir totalement zen, alors que pas forcément.
Surtout avec des perceptions complètement farfelues de ce que sont les philosophies hindoues ou chinoises, qui sont totalement réinterprétées dans des sens souvent aberrants. Mais effectivement, derrière le bien-être, il y a l'idée que si on pouvait s'abstraire de la matière, qu'est-ce que ça serait bien ? Donc il y a une forme de spiritualisation de l'existence qui finalement va laisser de côté ce qui est symbolique de la matière, qui est l'aliment.
Bonsoir Alexis.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Alexis, on vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, j'ai voulu appeler pour justement donner un peu mon point de vue par rapport à tout ça. On ne s'en rend pas du tout compte qu'on est pris un peu dans ce piège, moi c'est ce qui a été mon cas. Le bien-être, on nous le montre un peu partout, on nous dit qu'il faut effectivement bien manger, faire du sport, bien s'habiller, surtout qu'on est dans une certaine tranche d'âge, moi je suis assez jeune, j'ai moins de 30 ans, et en fait on s'ajoute plein de petits objectifs à cocher, et quand on a des problèmes en plus à côté dans la vie privée, dans la vie professionnelle, et qu'on échoue dans ces choses-là parce qu'on est fatigué, ben on s'ajoute encore plus d'échecs, encore plus de mal-être. Et si en plus on est à essayer de se comparer aux autres, bah au final ça peut être effectivement dangereux. Et moi je pense aux plus jeunes qui les jeunes filles, les jeunes garçons qui vont effectivement vouloir absolument être dans le bien-être, d'être dans une catégorie de personnes, d'un point de vue physique, d'un point de vue alimentaire, qui peuvent se mettre en danger, voilà.
Et vous, personnellement, Alexis, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été un peu, vous avez joué un peu l'excès avec vous-même, et qu'en y réfléchissant, finalement, vous avez réussi à avoir plus de détachement, ou c'est toujours compliqué pour vous?
Alors non, c'est moins compliqué aujourd'hui, mais ce qui m'a surpris, c'est le fait que je ne me rendais pas compte que je me mettais cette pression. Et pression, en fait, pourquoi pas pour des choses... primaire pour moi, on a tous des objectifs importants dans la vie, on a des passions, on a des choses qui nous guident, et ça c'est à la base pas des objectifs qui me guident. Donc effectivement, moi je me suis mis personnellement, je me suis mis à mal, un peu physiquement en plus, à vouloir effectivement avoir une façon de manger très très saine et d'avoir une bonne activité sportive. Donc voilà, je me suis un petit peu blessé, donc pour le moment je peux plus faire de sport, mais ça me permet de prendre conscience que c'était pas mes objectifs à moi, et qu'on se laisse un peu embrigader dans tout ça. Et en plus, toutes les communications qui sont faites là-dessus peuvent être vraiment dangereuses. Mmh. Parce que des fois, on nous fait peur. Et donc, on va se mettre la pression, être sûr, oui, moi aussi, il faut que je télécharge telle application pour savoir ce que je mange, savoir si c'est pas un poison. On vous fait réellement peur.
Merci beaucoup, Alexis. Nicolas Sahuc, moi, ce que j'aime dans ce que dit Alexis, d'abord, sur cette notion, certains nous font peur, on y reviendra. À un moment, il a dit tout à l'heure, il faut absolument cocher les cases. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a plein de cases que la société nous demande de cocher. Mange bien, cours, lève-toi relativement tôt, la vie est à toi. Et si on coche pas les bonnes cases, c'est de notre faute, alors.
Mais surtout, c'est que vous n'allez pas appartenir au groupe et vous allez avoir du mal à construire votre identité et à vous affirmer dans une société. La problématique dans les troubles alimentaires, et principalement chez les jeunes filles et jeunes garçons, c'est de construire cette identité dès l'adolescence. Et lorsqu'ils veulent être acceptés dans cette société, lorsqu'ils ont du mal à avoir confiance en eux, ils sont obligés de chercher des artifices comme le manger bien, le bon manger, l'activité physique, faire des bonnes choses pour être acceptés par les autres et avoir une forme d'identité. Voilà pourquoi très rapidement ça peut dérailler.
Benoît Elbrun.
Donc, en fait, ce qui nous montre que l'idéologie du bien-être, elle est adossée à une idéologie de la performance. En fait, on considère les individus comme des managers, donc on se manage soi-même à travers des pratiques de consommation, et donc évidemment, il y a des indicateurs de performance.
Et on est en compétition avec celui avec lequel on travaille, qui va faire du sport entre midi et deux, ou qui sa soupe de légumes dans le micro-ondes. Je regarde Pierre, notre stagiaire, qui fait ça tous les midis.
Et ce qui compte, c'est le regard que je pense que l'autre porte sur moi, en fait.
Irène Margaritis.
Oui, moi je reprends cette idée de dont je parlais tout à l'heure, la question de l'image du corps, c'est-à-dire et qui démarre à l'adolescence. Hein. C'est une période clé et l'image du corps, l'image qu'on renvoie, la réussite et qui va pousser les individus. Alors surtout les filles, ça commence aussi avec les garçons, à manger moins, à essayer d'être mince et à avoir ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a très bien montré lors de nos travaux, les travaux qu'on a publiés en 2011 sur les régimes amaigrissants à l'ANSES, c'est ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui a été décrit à l'instant. Mm-hmm. On contrôle au maximum en intellectualisant la chose et finalement on se coupe complètement de ces sensations, des sensations individuelles. Alors pour ce qui est de l'alimentation, on se coupe des sensations de satiété et de faim et de satiété. Mm-hmm. Et de ce fait, une fois qu'on a eu un contrôle cognitif très important, on craque. Et comme on a perdu cette perception et cette intuition, on est absolument incapable de savoir intuitivement de quoi on a besoin. Et c'est là qu'il y a une reprise de poids, entre autres, c'est une des raisons de la reprise de poids, c'est-à-dire que les personnes qui ont suivi ces régimes et qui se sont contrôlées pendant des mois et des mois vont manger d'une façon qui correspond pas du tout à leurs besoins et de ce fait vont reprendre du poids, se trouvent dans une situation d'échec et là on entre dans le cercle vicieux qui est bien connu.
On a cet auditeur sur le hashtag Telson. C'est pour vous, Benoît Elbrun, plutôt un problème purement lié aux sociétés riches, nous dit cet internaute, ou je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, qui ne savent plus vraiment où se situe le bonheur et qui ont besoin de combler un vide. C'est un truc de société, riche, les problèmes dont on est en train de parler.
Il est évident que dans une économie de la pénurie, on ne se pose pas ce genre de questions. Il est évident qu'une société qui ne fait que parler de bien-être est une société qui vit dans le mal-être. Hein. C'est la phrase d'Aragon qui dit les gens qui parlent de bonheur ont souvent les yeux tristes. Donc effectivement, on vit, je pense, l'une des conséquences d'une société d'abondance, et qui est le fait qu'il y a une pénurie du sens qui correspond à un trop-plein de marchandises. Donc on ne sait plus où donner de la tête, on est dans une société d'hyper-choix, et du coup, on ne sait plus où on est, quoi.
Et cette autre remarque avec le hashtag Telson, j'en ai marre de compter mes pas et de tout yucatiser, c'est-à-dire qu'avec la fameuse appli Yuka qu'on a tous où on regarde effectivement les horreurs de ce qu'on mange, je me retrouve à regarder toutes mes applications et à me restreindre et à culpabiliser quand je craque. C'est un peu le cercle vicieux en fait que nous décrit cette personne.
Ouais, c'est exactement ça le contrôle cognitif, hein, c'est-à-dire qu'on se met en contrôle de tout ce qu'on fait, on compte nos pas, on compte nos calories et ça nous déconnecte complètement de nos sensations.
Bon, après, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société judéo-chrétienne et que l'injonction la plus puissante pour inciter les gens à acheter ou à se comporter d'une telle façon, c'est évidemment la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est vraiment un moteur de développement des marchés. Fondamental.
On a cet internaute qui veut qu'on cite Rabelais, le médecin de la joie, qui nous envoie quelques citations de Rabelais. On sera ravis de les citer avant la fin de l'émission. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Soyez bienvenu Philippe.
Pardon.
Allez-y. Excusez-moi.
Oui, voilà. J'avais réagi, en particulier dès la première auditrice. Je trouvais très intéressant ce qu'elle disait, mais en même temps, je souhaitais qu'on n'oppose pas cette question du développement personnel et de pratiques collectives. C'est-à-dire que l'on peut trouver aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur même, à avoir des pratiques de type yoga, etc. Mais aussi de pas être coupé du reste du monde et ne pas s'astreindre à un régime drastique qui nous rend pas forcément heureux du coup. Et par ailleurs, je suis enseignant en éducation physique et sportive et je vois bien que mes élèves, par exemple, qui sont en surpoids, voire obèses, ne sont pas heureux comme la plupart des enfants, des adolescents, qui sont capables de gambader, courir, etc., sans difficulté. On sait très bien que quand on a des soucis donc de poids en particulier, on a aussi qui suivent des problèmes de santé. Enfin, je suis pas médecin, mais on sait très bien les difficultés et tout ce que cela engrange, et qui ne rend évidemment pas du tout heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille suivre des régimes très durs. Moi, je suis personnellement très éloigné et je ne recommanderais pas des applications pour mesurer ceci et cela dans son alimentation. Mais par ailleurs, il faut évidemment manger le plus sainement possible, manger bio si possible. Et je citais à votre standardiste l'exemple de la danse. Moi, j'inciterai tous les gens, par exemple, qui seraient un peu intéressés, à venir danser tout simplement, ou alors à aller se promener, à marcher avec des gens, des amis, la famille, dans des clubs, ou même pas dans des clubs, c'est pas une obligation. Mais tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, non seulement au corps, mais à la tête. Et donc, on peut se faire plaisir à aller danser. Le Grand Bal, le film Le Grand Bal, de Laetitia Carton, qui est encore sur certains écrans pendant encore quelques temps, montre ce plaisir des gens de se retrouver et d'aller danser des danses traditionnelles. Et ils mangent ensemble ensuite, bien sûr, lors de ce grand bal à Génétine, hein, dans l'Allier, je crois que c'est. Ils montrent à quel point les gens ont du plaisir à se mouvoir, à danser ensemble, des danses collectives, mais aussi des danses de couple, etc. Et certains mangent bio, comme moi, d'autres pas. Il y en a très peu, sans doute, qui sont vraiment végans, mais on peut manger sainement, se retrouver, avoir une pratique physique, artistique, comme la danse ou autre, et se faire plaisir. Mais le corps ne peut qu'en avoir des conséquences que positives.
Merci beaucoup. Voilà. Merci Philippe pour votre témoignage. Merci beaucoup Benoît Elbrun. Alors par ailleurs, dansons évidemment. Enfin, je veux dire, si vous voulez, on ira danser juste après. Mais on dit pas non au plaisir, pas une seconde. Oui au plaisir, au contraire. Mais il faut juste que ça reste un vrai plaisir.
Bien sûr. Bah, l'auditeur citait Rabelais tout à l'heure. On peut imaginer que Gargantua était tout à fait heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que une société qui est arc-boutée sur le bien-être, c'est une société qui a aussi abandonné toute idée de joie collective. Et on s'aperçoit que historiquement, en fait, les joies collectives qui étaient notamment le carnaval, ces phénomènes ont été complètement domestiqués pour donner place à des spectacles, des concerts dans lesquels on est rangé bien sagement. Donc effectivement, la pratique du corps, la pratique libérée, est une antidote très très importante au bien-être. Et évidemment, elle s'accompagne de plaisir. Mais plaisir et bien-être, ça n'a rien à voir.
Absolument.
Il y a du bien-être quand il n'y a plus le plaisir.
Et il y a Christine, tiens, sur l'appli France Inter qui fait cette remarque aussi, qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi un marqueur social, tout ça. On se démarque socialement quand on refuse le coca et les chips. Dans un sens ou dans l'autre, au fond peut-être, non, Irène Margaritis, on se démarque aussi socialement dans certains milieux, si on est toujours au coca et aux chips, en fait.
Mais on se démarque socialement dès lors qu'on sort de la norme ou de la moyenne ou de ce que fait la majorité de la population, tout simplement. Donc ça, c'est une approche qui est plutôt une approche comportementale de... On montre quelque chose, on est là pour montrer quelque chose avec sa façon de s'alimenter ou sa façon de se comporter. Mais ça n'a... Parfois, on se rend compte que le fait d'avoir une alimentation saine, entre guillemets, c'est uniquement pour le montrer. C'est pas forcément en accord avec soi. Il faut que, si on le fait, il faut que ce soit un objectif personnel, hein, une envie personnelle et être en harmonie, en équilibre avec soi-même.
Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Pauline.
Merci. Moi, je tiens à réagir, et notamment sur il faut être en accord avec soi-même. En effet, l'autonomie décisionnelle, pour moi, c'est la clé d'être bien, pas que dans sa peau, mais voilà, d'être bien en société. Parce qu'en fait, moi, j'ai moins de 30 ans, et quasiment pendant mes moins de 30 ans, là, toute ma vie, j'ai été entourée de prescriptions et prescripteurs prescriptifs sur comment faire, quoi ressentir, que dire et comment réagir. Et en fait, l'autonomie décisionnelle, on l'a quasiment plus. Et c'est-à-dire que je choisis, moi j'ai choisi de plus boire de coca, mais je sais pourquoi. Je suis allée chercher l'information du pourquoi et tout ce qui est réseaux sociaux pourrait être un outil d'échange entre pairs, mais pas un outil d'injonction ou pas un outil du marketing. Et c'est le gros problème, c'est que à quel moment l'individu rentre dans le collectif et à quel moment l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire que je choisis de plus boire de coca et pourquoi j'ai choisi ça. Et j'imagine que quand on sait vraiment le pourquoi je fais ce choix, l'autonomie décisionnelle et se détacher du prescripteur qui fout la pression, c'est sans doute la clé du bien-être.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Pauline. L'autonomie décisionnelle, Benoît Elbrun, se détacher des prescriptions et de ce qui fait peur. Je reviens à ce que disait l'auditeur précédent, de ce qui veut nous faire peur en tout cas.
Ça me fait penser à une très belle phrase d'un sociologue qui s'appelait Vance Packard, un sociologue américain, qui disait donnez-nous du coca et des hamburgers, mais s'il vous plaît, libérez-nous du joug de la liberté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que vient de dire cette auditrice magnifiquement, c'est que ce qui est important, c'est d'être dans son axe, et c'est finalement de vivre une liberté qui accepte un certain nombre de contraintes. Voilà, je pense que c'est ça.
Fabien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est vous le dernier, Fabien, bienvenue.
Merci. Déjà, merci aux techniciens et aux standardistes. Je vais être rapide, il n'y a plus beaucoup de temps.
Ils sont contents, merci.
Je vais citer Baudelaire. Ah. Enivrez-vous, voilà. Lâchez vos décomptes de calories et faites-vous plaisir, la vie est trop courte pour tout compter, tout le temps, donc faut se faire plaisir, je pense. C'est la base de la vie, c'est pour ça qu'elle est là.
Mais je suis pas sûr que Baudelaire était très heureux. Hein.
Alors, non, Benoît Elbrun dit que Baudelaire n'était pas tout à fait heureux. Ah, oh, il l'a bien été par moments.
Pas, effectivement, mais il a dû l'être.
Il a dû être avec Jeanne Duval.
Et il a écrit de très belles choses. Donc voilà.
Merci beaucoup, merci pour cette charmante conclusion, Fabien. Tiens, voilà une autre. C'est Jean-Philippe qui nous dit : je suis en train de me régaler d'un plat de boudin acheté en grande surface. Est-ce que je vais mourir ? Oui, Jean-Philippe, vous allez mourir, c'est incessant. Et puis cette petite remarque, allez, pour faire plaisir à Claire également : j'ai couru 10 km ce matin en attendant que ma soupe de légumes soit cuite, je bois un petit verre de blanc à votre santé. Bien à vous, nous dit-elle. Bah, écoutez, moi je vais aller à la piscine et derrière je commanderai un truc parce que je ne sais rien faire. Voilà, c'est comme ça que ça marche aussi. Merci à tous et portez-vous bien.